Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire de cette émission, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton se posera la question ou répondra à la question « Le temps du pop-corn est-il venu ?» Thibaut que l'on retrouvera en toute fin d'émission pour son complément d'enquête. Le son, ce sera Lady Sovereign. Quant à notre invité du jour, Pierre Bélanger, pour parler souveraineté numérique. Et si nous ne mesurions pas bien ce qui est en train de se passer? Et si nous étions à la veille d'une crise majeure due au numérique? Disparition de la classe moyenne, fuite des emplois? Et si un des aspects principaux de cette crise était la disparition de notre souveraineté? L'abandon aux États-Unis, mais pas simplement, de notre part, de la part logicielle de nos vies et de nos données. C'est le point de départ de la réflexion de notre invité. Bonsoir Pierre Bélanger.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Je vous en prie, mais on est content que vous soyez là. Ça fait longtemps qu'on tourne autour de vos travaux. Vous êtes le fondateur et le président de la radio Skyrock, qui a été pionnière dans une partie des usages du numérique. On avait consacré il y a 2-3 ans une émission entière au Skyblog. Et vous venez de publier chez Stock un énième, si j'ose dire, ouvrage, ça fait longtemps que vous écrivez sur ces questions, ouvrage intitulé « La souveraineté numérique ». Alors, le point de départ de votre livre, c'est le constat que je viens de mentionner, que nous allons détailler un peu. Mais l'ouvrage ne s'arrête pas au constat, il propose des solutions, ce que vous appelez même un plan réseau pour la France, moyen donc d'assurer notre souveraineté numérique, et on aura tout le temps d'examiner ces moyens. Mais avant, j'aimerais juste, Pierre Bélanger, qu'on revienne un tout petit peu sur votre parcours. On connaît celui qui vous a mené des radios libres à la création de Skyrock, un petit peu moins votre parcours numérique, alors qu'il est très fort et très ancien. Ça date de quand votre intérêt pour les réseaux, Pierre Bélanger?
Le réseau, c'est notre vie et c'est la mienne depuis le départ. Le premier réseau auquel je me suis intéressé était le réseau des Amis de la Terre, qui était un mouvement écologiste de la fin des années 70. Et puis, c'était le réseau de l'horloge parlante, qu'on appelait ensuite le réseau. Il faut vous souvenir que jadis, il y avait une horloge parlante, on appelait un numéro pour avoir l'heure, et les gens pouvaient s'exprimer à plusieurs, quand il y a plusieurs personnes qui parlaient. C'était ma découverte du réseau. Ensuite, sur l'aspect interactif, bien entendu, c'est la première chose que j'ai fait dans une radio libre, c'était répondre au téléphone. Donc ça, c'est une forme de réseau. Ensuite, et bien entendu, tout ce qu'on a pu faire avec le téléphone. Voilà, donc c'est magique, le téléphone à la radio, et puis le Minitel, et puis bien vite l'Internet. Avant l'Internet, c'était des réseaux comme Prodigy, America Online, que j'avais découvert aux États-Unis.
Que vous avez fréquenté The Source, ces réseaux-là.
Ouais. Oui, et j'étais allé voir le groupe France Télécom en 92-93 pour leur dire, voilà, il faut créer un réseau en fait d'ordinateurs. Et ensuite, j'ai découvert avec Calvacom l'Internet, qui n'existait pas encore sous la forme du web qu'on a connu ensuite. Et alors là, ça a été une explosion dans ma tête, en fait. J'ai vraiment pensé qu'il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait à nous. Et donc, j'ai toujours eu cette passion et je l'ai toujours associée, d'ailleurs, au grand public, à la liberté d'expression et comment utiliser le réseau comme un moyen d'être plus libre. Voilà, c'est ça l'idée
centrale.
Et comment
vous articulez votre intérêt, votre amour et votre pratique de la radio et celle du réseau? C'est rare les gens qui sont aussi attirés par deux formes de médias qui sont aussi différents que Internet d'un côté et la radio de l'autre.
Je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que, en tous les cas, c'est deux moyens de faire la même chose. Si notre passion collective, la passion de l'équipe Skyrock, c'est la liberté d'expression populaire de la nouvelle génération, donc la liberté d'expression et donc la liberté, il y a un moyen de le faire vivre en radio, il y a un moyen de le faire vivre sur les réseaux. Et toujours cette idée de dire créer des outils de prise de parole, créer des outils d'échange, d'émancipation, d'indépendance, d'autonomie. C'est vraiment la vocation de la radio, de la nôtre, qui est dans la tradition et dans l'esprit des radios libres. Et c'est la même chose qu'on a fait sur Internet avec les blogs. Les blogs, c'est 30 millions d'expressions individuelles libres parce que sous pseudo.
Alors, Pierre Bellanger, le départ de votre livre est beaucoup moins euphorique que les propos que vous venez de tenir sur le numérique. Alors, évidemment, vous ne mettez pas de côté tous les avantages d'Internet, vous en parlez beaucoup, etc. Mais les premières pages et l'introduction de votre livre sont dures parce qu'elles postulent l'arrivée d'une crise, d'un bouleversement, très global. Très, très global. Comment vous caractériseriez ce qui est en train de commencer et ce qui va se passer? Le terme de révolution vous conviendrait? Révolution industrielle? Quel terme vous prendriez
J'ai, pour faire la transition, en fait, l'euphorie, oui, bien sûr, l'euphorie de l'usage du réseau, c'est un outil de liberté fantastique, le réseau. C'est un multiplicateur de notre productivité, de notre capacité de se faire aider, d'aider les autres. C'est extraordinaire. Maintenant, ces nouvelles libertés, il ne faut pas les payer au prix de notre liberté. Donc ça, c'est là où ça rejoint le premier propos. Ensuite, la puissance du réseau. Sa capacité de captation, de transfert de valeur, de multiplication de valeur est telle qu'en fait, vous pouvez imaginer la société comme étant une sorte d'écosystème sur lequel se greffe le réseau qui va ensuite en aspirer toute la valeur. Et donc, face à cette révolution, on peut parler de révolution, oui, de rupture, de changement, mais ce n'est pas une révolution industrielle traditionnelle. Dans la révolution industrielle traditionnelle, vous avez une sorte de passage de relais. On dit, voilà, le paysan deviendra ouvrier, l'ouvrier deviendra employé, et ainsi de suite. Là, on n'est pas dans une logique qui est une logique traditionnelle, on est dans une logique de substitution. Donc, on n'est pas dans la logique où il y a un passage de relais. Là, on passe le relais à rien, c'est-à-dire que après nous, les machines.
Ah, c'est ça, c'est les machines.
Oui, les machines, les algorithmes. Il y a, comme on est à la radio, j'ai amené un tableau.
Allez-y.
Et en fait, c'est un tableau qui est sorti dans la presse américaine il y a quelques jours, qui s'appelle « Probabilité par métier que les robots vont prendre votre métier dans les 20 prochaines années ».
Je l'ai vu.
Avec le 1, c'est certain. Bon, et en fait... Pour tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes en fait coach à domicile, dentiste ou prêtre, bon, il n'y a aucun souci. Mais pour les autres, c'est chaud. Et donc, par conséquent, on est dans une logique de substitution. On a longtemps cru en France que l'Internet venait s'ajouter au monde que l'on connaissait. L'Internet vient le remplacer. Et c'est là où la notion de souveraineté numérique est capitale, parce que la souveraineté, c'est de dire quelle est notre maîtrise sur les réseaux informatiques.
Mais par exemple, donnez-nous des exemples, ces substitutions à l'œuvre, vous les voyez où, dans quel secteur, je ne sais pas, la banque, les assurances, enfin, où ça agit, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que ça voudra dire, je ne sais pas, qu'est-ce que sera une banque demain, qu'est-ce que ce sera
Je vais prendre un secteur qu'on connaît tous, qui est l'automobile. C'est un secteur industriel qui est capital, qui emploie des millions de personnes en emploi direct et emploi induit. La voiture de demain, c'est une voiture connectée. Donc, c'est une voiture qui est en constante interaction avec le réseau où l'informatique joue une place prépondérante. Cette voiture-là, elle a besoin d'un système d'exploitation. Ce système d'exploitation, eh bien, qui va le fournir ? Vous avez des constructeurs automobiles qui cherchent aujourd'hui à en développer. Et puis, vous avez le système d'exploitation de votre mobile, qui est Android, par exemple, ou iOS d'Apple. Eh bien, au final, imaginons que ça soit iOS ou Android qui gagne. Et c'est le plus probable, parce que quand vous entrez dans votre véhicule, vous êtes déjà connecté à un réseau. Donc, vous avez envie de retrouver votre carte, votre carnet d'adresses, vous avez envie de retrouver votre agenda, vos parcours, en fait, vos habitudes. Vous voulez transporter votre bulle d'habitude. Donc, vous vous retrouvez avec Android dans votre véhicule. Vous avez besoin d'une carte qui vous donne donc le trafic, mais Android a cette particularité, puisqu'il est dans tous les mobiles et qu'il identifie ses utilisateurs et que 80% des usages et des transports et des parcours qu'on fait, ben on les reproduit tous les jours. Ben donc très simplement, il peut faire mieux que simplement, je dirais, une photo du trafic. Il peut dire comment sera le trafic dans une heure, puisqu'il connaît où vont les véhicules. Et donc, il va pouvoir vous guider exactement par rapport au trafic tel qu'il va être. À partir du moment où il contrôle ce véhicule, il va très vite contrôler la signalisation routière. À Stockholm, par exemple, un système a été mis en place où il y a des caméras qui sont liées aux feux de signalisation et qui, en fait, allument les feux en fonction du trafic réel. On gagne 40% de trafic. Et donc, on s'aperçoit très vite qu'on contrôle la voiture. Bon, ben, on va contrôler le trafic. Qui contrôle le trafic contrôle très vite l'urbanisme. Et donc, on contrôle la ville. Et donc, vous voyez qu'à partir d'un simple téléphone mobile, vous transférez la valeur de la voiture à son logiciel, à son service. C'est déjà arrivé, hein. Microsoft l'a fait au PC. Et donc, vous voyez que toute notre industrie automobile devient, au lieu d'être une industrie forte, à valeur ajoutée puissante, une industrie de carcasse qui fait que uniquement payer des licences au détenteur du vrai pouvoir à qui la valeur est transférée, c'est le logiciel du système d'exploitation. Donc vous assistez là à un transfert de valeur qui fait disparaître une industrie. Sur la banque, vous pouvez apprendre le même schéma. Sur la banque, vous faites des prêts. Ces prêts, ils ont un risque. Ce risque, vous pouvez le diminuer par les données que vous connaissez. Plus vous connaissez de données sur quelqu'un, plus vous pouvez lui prêter avec une certitude de remboursement. Vous n'avez même besoin de lui poser aucune question. Il y a un mot d'ailleurs que je vous conseille d'employer sur le réseau, c'est barbecue. Si vous employez le mot barbecue, cela signifie que vous avez probablement une vie sociale, que vous avez probablement un jardin ou que vous êtes invité, que finalement, ça va accroître votre capacité de remboursement. En revanche, ne réservez jamais vos voyages à la dernière minute. Ça veut dire que finalement, vous n'êtes absolument pas prévoyant et vous êtes donc une personne à risque. Et vous avez comme ça des successions de mots qui vont permettre de prédire votre faculté à rembourser ou non. Et ces réseaux-là, en fait, collectent ces mots, collectent ces informations, et ça change complètement le métier de la banque. Ça change l'assurance, ça change la santé. En fait, c'est tout notre univers qui est en train de basculer vers le logiciel.
Et Pierre Bélanger, vous reprenez à votre compte une théorie qu'on voit de plus en plus apparaître sur les réseaux, qui est l'idée que ce processus de substitution s'accompagnerait d'une disparition de la classe moyenne, qui est quand même sur laquelle se fonde en gros la démocratie capitaliste telle que nous la connaissons depuis le milieu du 19e siècle, qui a fait émerger donc une classe moyenne massive sur laquelle repose en gros tout nos systèmes économiques et sociaux. Alors, ça veut dire quoi ça? Si la classe moyenne disparaît, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une petite élite qui s'en tire et un gros sous-prolétariat des employés?
En fait, c'est un passage du losange au sablier. On vient d'une société du losange. Un losange, c'est une petite élite, finalement assez peu de gens qui sont pauvres et une très très grosse classe moyenne. Le sablier, c'est la disparition de cette classe moyenne, une partie qui s'évase et qui se mondialise et une partie qui s'effondre en dessous. Et donc, c'est ce à quoi on assiste et c'est l'effet du réseau. L'effet du réseau, c'est effectivement la disparition de tout ce qui est moyen. Alors, la classe moyenne, c'est essentiellement des emplois du tertiaire aujourd'hui. Ces emplois du tertiaire, il y a une étude de l'université d'Oxford qui est sortie. Après l'apparition de mon livre, moi j'étais sur une étude du MIT et de l'université de Louvain, qui indique, et d'ailleurs, puisque, encore une fois, nous sommes à la radio, je suis venu avec des documents.
Décidément, vous y connaissez en radio.
Hein. Absolument. Donc, c'est The Economist il y a quelques semaines. Et pour ceux qui n'ont pas l'image, on a Coming to an office near you, et on voit une tornade et des employés de bureau qui sont là, qui vont être emportés par la tornade. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette étude dit que 47% des emplois du tertiaire vont disparaître au profit des réseaux et des machines dans les 20 prochaines années, et pas la 19e. Et que donc, par conséquent, on assiste en fait à un transfert de valeur et une disparition du travail. Internet aujourd'hui, pour un emploi créé sur Internet, c'est 4 emplois qui disparaissent. Alors là-dessus, on m'a toujours sorti et Schumpeter. Donc Schumpeter, connu pour une seule de ses phrases, expression « la destruction créatrice ». Et tout le monde nous explique ce qui était valable dans l'Empire austro-hongrois est valable aujourd'hui sur une planète mondialisée. Ce qui n'est pas vrai, puisque vous pouvez détruire des emplois ici et les créer ailleurs. Et donc, dans une logique mondialisée, il n'y a plus ce passage de relais traditionnel.
Ça se fait à l'échelle du monde.
Ça se fait à l'échelle du monde. Et donc, par conséquent, oui, on est sous une menace. Donc, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ça? D'abord, c'est la lucidité. Et la lucidité rend optimiste. Oui, parce que quand on ne sait pas ce dont on a peur, et finalement, on est encore plus anxieux. Là, on peut identifier une menace. On peut dire, voilà ce qui va se passer. Nous n'allons pas échapper à ça. Nous allons le vivre. Il ne faut pas essayer de résister à cette mécanique parce qu'elle est forte et qu'elle nous rend service. C'est des meilleurs services que nous allons avoir. C'est plus de liberté. Ouais. Mais en revanche, c'est savoir comment est-ce qu'on le maîtrise et comment est-ce qu'on assume cette transition et surtout avec quels moyens.
Par ailleurs, Pierre Bélanger, pour aller juste au bout de ce constat que vous faites d'un monde en changement, vous accréditez en gros, page 107, 108 de votre livre, la souveraineté numérique, donc paru chez Stock, je le rappelle, vous accréditez la thèse de la singularité, c'est-à-dire cette thèse transhumaniste qui considère qu'à un moment relativement proche de l'histoire de l'humanité, puisqu'en gros, Ray Kurzweil et les autres transhumanistes postulent que ce sera vers 2042-2045. Il y aura une sorte de fusion entre l'homme et la machine avec, du coup, là, croissance exponentielle, apparition d'une forme d'intelligence supérieure à l'intelligence humaine, etc. Vous le dites carrément, je peux vous citer, hein, fort de cette comparaison, hein, il est clair que la machine atteindra un jour la capacité de calcul ainsi théorisée du cerveau humain. Par projection des progrès exponentiels de l'informatique, le dépassement aura lieu à la troisième décennie de notre siècle. Bon, vous êtes plus optimiste encore que les transhumanistes. Ce moment est appelé par Raymond Kurzweil la singularité.
Bon. Voilà, et donc je combats cela, puisque pour combattre quelque chose, il faut le décrire. Et la comparaison du cerveau humain avec la machine la plus compliquée du moment, c'est quelque chose qui nous suit depuis longtemps. La machine, en fait, le cerveau humain a été comparé à l'horloge, il a été comparé au standard téléphonique du début du XXe siècle. Donc chaque fois, on prend l'objet le plus compliqué et on dit c'est ça le cerveau humain. Aujourd'hui, c'est bien entendu l'ordinateur. Je pense qu'un être humain est une entité, une identité irréductible à la machine. Et que donc, par conséquent, si on compare l'homme à la machine, il est évident que la machine sera plus rapide que l'homme. Mais l'homme n'est pas une machine. Et donc, le fait de quantifier l'être humain, le fait de le réduire simplement à une somme de données, à une somme, c'est la théorie réductionniste. Je pense que c'est une erreur. Je pense que ce qui est intéressant en tous les cas, c'est qu'il y a les puissances de calcul qui augmentent de façon exponentielle. Donc, tout ce que vous pouvez faire qui est répétitif à environnement constant est menacé. Mais par exemple, cette émission, elle n'est pas répétitive, même si elle est dans un environnement constant. Vous devez, chaque fois, inventer des nouvelles réactions. Donc, c'est un être humain qui est le mieux qualifié pour le faire. En revanche, toutes les tâches répétitives à environnement constant sont menacées. Et sur la théorie de Kurzweil, eh bien, je pense malheureusement que Kurzweil se trompe. Mais je pense qu'il nous donne une direction et il montre la vitesse et l'accélération. Donc, il a raison sur le processus. Je pense qu'il se trompe sur l'homologie.
Ok, ça, j'ai bien compris. Alors, venons-en à la question de la souveraineté. En quoi est-ce que tous ces changements sont articulés, tous ces bouleversements, s'articulent à la question de la souveraineté, qui est quand même un terme historiquement marqué, et pas simplement historiquement marqué, théoriquement marqué. Je ne vois pas immédiatement comme ça en quoi ça s'articule à cette question de la souveraineté, qui est un rapport au territoire. Voilà, jusqu'à maintenant, on décrit des choses qui ne sont pas des rapports au territoire, justement, précisément, Pierre Bélanger.
Au départ, il y a la liberté. La liberté, dans nos sociétés, s'articule sur le droit. Qu'est-ce qui fonde le droit ? C'est la maîtrise de la violence sur un territoire. Et que donc, par conséquent, on est dans ces logiques de souveraineté. C'est-à-dire, la liberté, c'est le droit, c'est la souveraineté. Et donc, la liberté, c'est la souveraineté. Donc, il y a une théorie qui dit, bah non, t'as rien compris, Internet, c'est mondial, et toi, t'es là avec Charles Pasqua, en train de défendre tes petits carrés, etc. Et tout ça est
et
fini.
Et d'autres, Chevènement.
Et d'autres, oui, mais je prends cet exemple-là parce que c'est, entre guillemets, quel que soit le respect qu'on peut porter à chaque être humain, mais le plus caricatural. Bon. En fait, la souveraineté, c'est quelque chose d'extraordinairement moderne, puisque la liberté est moderne. Par définition, on doit la défendre à chaque époque. Donc, la question de la souveraineté, c'est le même débat qui a eu lieu jadis, lorsque la puissance maritime anglaise a eu le contrôle des mers. Elle a dit, quand elle a eu c'était vraiment le contrôle maritime, elle a dit, ben, il faut la liberté des mers. C'est-à-dire, en fait, il faut pouvoir circuler librement partout, etc. Mais en fait, ça masquait le contrôle que l'Empire britannique avait sur les océans. Et donc, il y a un parallèle entre l'Internet, aujourd'hui, au XXIe siècle, et l'océan, jadis, au XVIIe et au XVIIIe. C'est-à-dire que les souverainetés se trouvent soudain très dépourvues face à l'océan, face à quelque chose qui est transverse.
Où elles sont menacées, les souverainetés ?
Eh bien, elles sont menacées à partir du moment où je prends le cas de chacun d'entre nous. Il y a des données qui sont collectées sur nous. Ces données, en fait, elles vont être stockées dans des serveurs, probablement aux États-Unis, hein, puisqu'on est un exportateur de données massif. S'il y avait une balance des données, d'ailleurs, on serait largement déficitaire. Donc, on exporte ces données. Sous quel droit sont-elles ? Bah, d'abord, elles ne sont pas sous le droit américain. Je dirais, le droit américain ne les concerne pas, puisque comme nous sommes des citoyens européens, nous ne bénéficions d'aucune protection particulière sous le droit américain. Elles ne sont pas non plus sous le droit européen, puisqu'elles sont maintenant
aux États-Unis.
Voilà. Donc, on se retrouve dans le statut d'un être qui est vivant, mais sans droit. Bon, ça, c'est le droit des animaux, on est un objet vivant. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de sortir du droit des animaux pour les utilisateurs d'Internet, c'est d'avoir des vrais droits d'être humain. Le droit d'un être humain, c'est le droit de la propriété de sa trace numérique. Et je pense, comme Beaumarchais l'a fait avec le droit d'auteur, il faut créer la propriété des données. De telle manière à ce que notre souveraineté individuelle, personnelle, eh bien, soit attachée à l'usage qu'on peut faire de nos données. Nos données, aujourd'hui, sont res nullius en droit. C'est-à-dire qu'elles n'appartiennent à personne. Il faut en faire un nouveau droit des individus. Et c'est là où la souveraineté est importante, c'est là où elle est capitale, c'est que si on n'a pas la maîtrise de ce qui se passe sur nos réseaux, eh bien c'est d'autres qui l'ont à notre place.
Mais ces autres, justement, c'est qui ? Parce que ça oscille dans votre livre, on ne comprend pas très bien si les autres, ce sont les grandes entreprises qui sont principalement américaines, mais qui sont d'abord, avant tout, des grandes entreprises, dont les intérêts ne sont pas toujours totalement convergents avec ceux des États-Unis, pour une part, ou est-ce que c'est les États-Unis ? Il y a un moment où, et vous dites, mon livre n'est pas anti-américaniste, certes.
Ah, ça c'est vrai, j'adore les Américains.
Mais sauf qu'il y a des moments où on se demande si la récupération qu'on doit procéder de notre souveraineté, elle ne se fait pas justement contre les États-Unis.
Mais on peut tout à fait aimer la culture américaine, aimer le peuple américain et les affronter extrêmement durement. Et d'ailleurs, je pense que la meilleure manière d'être américain, c'est d'être français, c'est-à-dire d'être fier de sa nation et de son pays. Donc aujourd'hui, on est face à ce que j'ai appelé un complexe militaro-numérique. Ce qui rejoint votre question, oui, il y a des entreprises avec des intérêts divergents, il y a des États, mais tout ça forme un tout. Même s'il y a des intérêts contradictoires, il y a une unité d'intérêts global qui sont des intérêts à la fois économiques et militaires. Lorsque vous avez un réseau social qui capte des informations, ces informations vont être utilisées aussi bien par le secteur militaire que par tout le secteur du renseignement, parce que c'est un livre ouvert pour le renseignement militaire. De la même manière, si le renseignement militaire ou civil capte des informations, elles seront à disposition des entreprises privées, parce qu'il y a une unité logique entre la guerre économique, la guerre du renseignement et la guerre informatique. Tout ça, ça forme une unité. Il y a des pays comme le nôtre sur lequel il peut y avoir encore une division entre le secteur commercial, le secteur privé, le renseignement et encore. Bon, mais on s'aperçoit qu'en fait que tout ça forme un tout organique, un écosystème combattant.
Bon, Pierre Bélanger, on va poursuivre cette discussion parce qu'évidemment là on a dressé un constat et une problématisation de la question de la souveraineté à l'intérieur de ce constat, mais ça appelle un nombre de questions, vous imaginez, monumentales, cette question de la souveraineté dont on va discuter dans quelques instants. Mais tout de suite, Thibaut Henton qui s'est plongé dans son ordinateur cette semaine pour répondre à la question « Le temps du pop-corn est-il venu ?»
Le temps du pop-corn est-il venu ? Oh, ça va bien les éléments importés des États-Unis, on se tape déjà du globish à longueur d'antenne, surtout dans Place de la Toile, c'est pas pour en rajouter. Du calme. Popcorn Time, c'est le nom d'une application téléchargeable en deux clics sur la toile, d'une simplicité confondante, une plateforme pour regarder des films, surtout américains pour le moment, mais cela pourrait vite s'étendre à d'autres catalogues. Popcorn Time, qualifié de pire cauchemar d'Hollywood, réunit les meilleurs outils de partage ou piratage, c'est selon. D'un côté, le streaming, qui permet de se brancher immédiatement sur un flux, vidéo en l'occurrence. De l'autre, BitTorrent, un protocole d'échange de fichiers en pair à pair, grâce auquel le récepteur dudit fichier se transforme quasi immédiatement en émetteur, garantissant ainsi son ubiquité et l'extension du domaine du partage. Le tout est rassemblé dans une interface très intuitive à la Netflix, le service de vidéo à la demande qui va bientôt arriver en France. On parle d'ailleurs pour Popcorn Time de Netflix open source ou de Netflix pirate. J'installe la dernière version du logiciel en moins de 2 sur mon ordinateur, je l'ouvre, puis apparaît une fenêtre au design élégant qui présente une liste de films américains récents, Gravity, Le Loup de Wall Street, Dallas Buyers Club. Un nouveau clic sur la fiche du film, hop, un petit éclair vert ou rouge en haut à droite renseigne sur la santé du fichier, s'il circule beaucoup ou non, autrement dit si je dois m'attendre à ce que mon flux saute. Je choisis la langue des sous-titres, la qualité basse ou haute, et hop, ça démarre. Bon, d'accord, mais en quoi est-ce notable ? Eh bien, parce que le stream est presque parfait, comme dit Erwan Cario dans Libération. Parce que les concepteurs n'ont rien inventé à proprement parler, mais qu'ils ont su rassembler le meilleur de l'existant, sans disposer de serveurs propres qui puissent être saisis par le FBI, sans ajouter de la publicité, sans demander une somme mensuelle qui puisse faire passer l'entreprise pour une entreprise mafieuse, comme dans le cas de Kim.com avec Mega Upload. Le tout dans une interface simple, pensée pour l'utilisateur. Bon, mais si c'est si simple, pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Petite recherche, De fait, il existe bien un projet semblable, du nom de XBMC Torrent. Là aussi, l'idée, c'est de relier dans un même logiciel plusieurs interfaces de programmation API. En l'occurrence, une base de fichiers Torrent, une autre pour les affiches de films, une autre encore pour les sous-titres, etc. Les relier et faire en sorte qu'au lieu de télécharger le fichier en pair à pair avant de le regarder, il soit possible de le lire tout en le téléchargeant. Ce qui implique, soit dit en passant, que le fichier ne soit pas haché en petits bouts, téléchargé de manière désordonnée comme c'est d'habitude le cas avec BitTorrent, mais que les bouts soient téléchargés dans l'ordre. Bon, Popcorn Time a d'abord été conçu par un groupe de geeks argentins. Ils ont choisi comme emblème Pochoclin, petit personnage qui figure sur les cornets de popcorn vendus dans les salles. Un peu comme le petit mineur en France, quoi. Vous aussi, vous voyez le petit bonhomme qui surfe sur un ticket avant le début du film. Param papapapapam, param papapapapam. Bon, cette première version a connu un succès très rapide, a attiré les projecteurs et les foudres d'Hollywood au point d'être vite retiré de la toile. Sauf que le code source était disponible sous licence libre et qu'il est donc très vite réapparu, attirant d'autres développeurs. Preuve que l'innovation la plus réussie ne réside pas nécessairement dans l'invention ex nihilo, mais dans le réassemblage de choses déjà existantes et parfois depuis longtemps. Donc parce qu'il a déjà commencé avec Napster et rencontré entre-temps BitTorrent, on n'arrêtera plus le temps du popcorn. Yo, this is Shiesty, I love Shiesty. Yeah, SOV, Lady Sovereign, I'm what Shiesty is. Take these boys out, yeah? I'm on it, boy. Let's battle, show these guys what we're working with, boy. Cause yeah. I know, say, I can spit. Let's show them. Yo, there's something I got one bad habit. When dance free step to me, I won't have it. Especially people like you and you want first to kill out when I come true. Time after time, let's in the low power. Went to the time when you got slaughtered. Because no, it's just an argument. What is this? You're looking at House of Parliament. Look at that T-word, look at that T-verb. Look a boy busting it on any curb. People left them up before they have heard. But the heart rate stopped when they have just learned. Then above a flow, leave your mind hollow. Like a center of a polo. Push contender aside when I'm told.
Merci Thibaut, hein. On se retrouve dans quelques instants pour le complément d'enquête. À parler de souveraineté, on ne peut que penser à celle qui l'incarne, hein, d'une manière qui doit vous plaire, hein, vous, le patron de Skyrock. C'est la rappeuse britannique Lady Sovereign qui est ici dans un morceau absolument magnifique qui s'appelle The Battle, qu'elle livre, avec Frost P, Shisty et Zeus Rock. C'est un morceau qui date de 2004. You're not creep. Listen up to Sovereign, I be shy, see. Guns ready, come steep, and they never stop. We spitting lyrics in your face, you can't keep with the pace. So you don't wanna fuck with our side, fool. Listen up to Sovereign, I be shy, see. Guns ready, come steep, and they never stop. We spitting lyrics in your face, you can't keep with the pace. So you don't wanna fuck with our side, fool. So, let's show these boys what time it is. I'm showing you. They don't know about how us. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques où nous recevons ce soir Pierre Bélanger pour parler souveraineté numérique à l'occasion du livre que vous venez de publier aux éditions Stock, La souveraineté numérique. Alors, dans la première partie de l'émission, vous nous avez expliqué l'étendue et la profondeur des changements qui étaient en train d'avoir lieu et donc la nécessité de retrouver une souveraineté numérique. Par quoi ça passerait, selon vous, le retour ou la réappropriation de cette souveraineté numérique? Vous évoquez un plan réseau national. Alors, on ne va pas détailler. Vous nous avez, par exemple, parlé tout à l'heure de la question des données. Mais pour en examiner quelques aspects, vous parlez, par exemple, de la constitution d'un réseau logiciel national. Ce serait quoi, un réseau logiciel national? À quoi ce serait utile à la réappropriation de notre souveraineté, Pierre Bélanger?
La souveraineté numérique, donc la maîtrise de notre destin sur les réseaux, elle est capitale. Elle se fonde sur trois étapes. La première étape, c'est celle qu'on est en train de vivre, c'est la prise de conscience. Donc, le meilleur attaché de presse, en fait, de cette prise de conscience, c'est Snowden, qui nous montre, en fait, la vulnérabilité absolue d'un État qui organise le défilé du 14 juillet, mais qui est incapable de garantir le secret de la correspondance. Mmh. Donc ça, c'est la première chose, c'est prise de conscience. Elle est en cours. La deuxième étape, c'est un cadre juridique. Nous avons besoin d'un cadre juridique, puisqu'aujourd'hui, l'absence de cadre fait que, ce qu'on appelle le pillage fiscal et même le pillage des données, tout ça, finalement, est légal. Donc, en fait, la faute, elle est toujours chez nous. Si on laisse la porte ouverte, c'est de notre fait. Donc, la première chose, c'est la prise de conscience. La même chose, c'est le cadre. Sur le cadre, la propriété des données est capitale, puisque à partir du moment où vous êtes propriétaire de vos données, on ne peut plus faire n'importe quoi avec. Donc, ça, c'est un point important. La localisation des serveurs. Ça veut dire que toute manipulation, captation ou traitement de données d'un citoyen européen doit avoir lieu sur le territoire européen. Ça, c'est le deuxième point. Mmh. Et le troisième point, c'est le cryptage. Le cryptage, c'est-à-dire tous les transferts de données entre machines doivent être cryptés. Et si possible, ne pas se fournir auprès des fournisseurs habituels de solutions de cryptage qui eux-mêmes ont des accords avec les centrales de renseignement.
Donc, Pierre Bélanger, mais c'est massif. C'est-à-dire que, imaginez qu'il faille mettre en place ce plan réseau, c'est massif parce que c'est à la fois un plan donc, juridique. Bon, déjà, ce qui signifierait qu'il faudrait quand même que les hommes politiques et femmes politiques comprennent les enjeux, ce qui n'est pas forcément évident. Première chose. Deuxièmement, c'est quasiment un plan industriel parce que quand vous dites serveur, d'accord, mais enfin, bon, les serveurs, il faut les créer, les centres de serveurs, il faut créer les entreprises. Qui serait capable de les gérer. C'est un plan massif que vous faites appel.
Je pense qu'il vaut mieux une solution compliquée à une catastrophe simple. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, il y a une urgence et le plan doit être d'envergure. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui nous arrive. C'est-à-dire que la disparition des classes moyennes qu'on évoquait tout à l'heure, la disparition d'un emploi sur deux, des transferts des secteurs entiers qui vont être sinistrés, comme l'automobile, la banque, l'assurance et quasiment toute la logique des services, ça implique au moins une réponse qui soit 1% de la politique agricole commune. Je veux dire, on peut y aller quand même, on peut essayer d'imaginer quelque chose. Et la menace sur l'emploi rend ce sujet sensible à tous. Donc la première chose, c'est le cadre juridique. Ensuite, qu'est-ce qu'un réseau logiciel? Un réseau logiciel, c'est un néologisme dans lequel on retrouve le mot réseau et le mot logiciel. Un réseau logiciel, c'est un réseau de services. Un réseau de services, c'est un moteur de recherche, plus le calendrier, plus le répertoire, plus le webmail, etc. Donc c'est un réseau de services. Ce réseau de services, lui-même, il va se déployer sur un système d'exploitation, sur des terminaux, et finalement va innerver le réseau lui-même. Et c'est cet ensemble-là qui constitue le réseau logiciel. Les réseaux logiciels aujourd'hui sont en situation dominante, puisque le réseau capte la valeur de la société et le réseau logiciel capte la valeur du réseau.
Mais bon. ça se crée comme ça, ad hoc, de manière...
Oui, parce que nous avons vu ces réseaux logiciels surgir autour de nous.
Google, c'est un réseau logiciel, selon vous ?
Bien sûr, d'accord. Bien sûr. Et on a vu donc cette brillante entreprise, finalement, avec succès, avec un service remarquable, pouvoir développer un réseau de services, un moteur de recherche, des terminaux et une innervation des réseaux existants. Donc, je dirais, c'est à la portée d'une entreprise, c'est à la portée d'un pays. Bon, et c'est de surcroît à la portée d'opérateurs de télécommunications, c'est de surcroît à la portée, je dirais, d'opérateurs qui pourraient s'associer pour le faire. Donc, on a une obligation de créer un réseau logiciel. On me dit, mais pourquoi est-ce qu'il faut faire ce réseau de services ? Parce que ce réseau de services, c'est le moteur. Si on revenait au début de l'industrie automobile, pour donner un parallèle, imaginez, l'industrie automobile démarre, on est au début du XXe siècle, démarrer le mot d'ailleurs, et on n'a rien fait. Bon, et soudain, quelqu'un dit, il faut faire quelque chose. Et quelqu'un dit, des start-up. Alors, on va faire une start-up de balai d'essuie-glace, une start-up de rétroviseur, une start-up de bouchon de radiateur. Et il y aura certainement des housses de siège et un ministre qui viendra donner la housse d'or une fois par an. Mais ce qui est important, ce n'est pas les start-up, c'est le motoriste, c'est le moteur. Donc, le moteur, c'est le réseau de services. C'est lui qui est intégrateur, c'est lui qui contrôle par le système d'exploitation la relation à l'utilisateur et l'utilisation des données. Et c'est capital qu'on ait ce motoriste.
Je comprends bien, Pierre Bélanger, mais le moteur, il est là. Comment vous voulez remplacer les moteurs déjà existants qui sont ultra puissants ?
Alors, regardez comment le monde peut changer à une vitesse extraordinaire. Vous avez une société qui domine la téléphonie, c'est Nokia. Indestructible Nokia. Fantastique Nokia.
Ça va durer très longtemps.
Bon, arrive quelqu'un qui dit, finalement, c'est plus un téléphone de poche, c'est un ordinateur de poche. On change de paradigme. Vous avez soudain un iPhone qui est quasiment un objet religieux. Et je dirais qu'il fait l'objet d'un culte. Arrive un fabricant de réfrigérateurs qui va imposer le Samsung. Et c'est le Samsung, le nouveau un modèle qui devient concurrent. Et même, on voit Android, qui n'est pas fait au départ pour les téléphones mobiles, développé par une petite boîte, repris par Google et ensuite développé. Regardez la fluidité, la plasticité du monde dans lequel on est et à quelle vitesse les évidences succèdent aux autres. Donc, rien ne nous empêche, si on en a la volonté, d'avoir un SOS, a Sovereign Operating System, donc un système d'exploitation souverain. SOS dit la gravité de la situation. Et donc, de se lancer.
Alors, d'accord, Pierre Bélanger. Moi, ma question, c'est de savoir si le cadre national est encore le cadre qu'il faut, le cadre nécessaire ou même le cadre possible pour ce type d'opération. Pour plein de raisons. C'est-à-dire que, est-ce que la France peut faire ça seule, ou est-ce que c'est l'échelle européenne, donc du coup, qui est la bonne échelle? Et par ailleurs, derrière la question, vous voyez bien, c'est que le réseau, il est ouvert. Les seuls exemples de réseaux qui résistent, disons, de manière nationale, ce sont des réseaux fermés. C'est le réseau, le réseau caricatural de la Corée du Nord, bon, qui n'existe quasiment pas, mais enfin qui existe un peu quand même, mais surtout le réseau chinois. Bon. Et est-ce qu'on peut maintenir les impératifs, disons, démocratiques, qui sont ceux d'un pays comme le nôtre, voire, disons, d'un ensemble de pays comme le nôtre, qui est l'Europe, hein, avec cette idée, donc, d'un réseau qui soit national ou, disons, international, mais à une petite échelle. C'est vraiment une question qui me semble, disons, au cœur de ces problématiques de souveraineté numérique.
Si on était la principauté de Monaco, je vous dirais peut-être que la taille nationale n'est pas suffisante. Mais quand on est la cinquième puissance industrielle mondiale, je vous dis que la taille, n'est pas une question pour nous. D'abord, il y a un point important, c'est que vous prenez l'exemple, effectivement, de pays fermés, qui fondent, en fait, sur le contrôle et l'oppression de la liberté des utilisateurs, l'émergence d'un écosystème semi-fermé. Ce dont nous parlons avec notamment la propriété des données, c'est ce que j'ai appelé une liberté compétitive, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les droits de l'homme, on s'appuie sur les libertés, on s'appuie sur la souveraineté des individus pour faire un meilleur Internet, pour faire un Internet qui se fonde sur les libertés des individus plutôt que sur le pillage de leurs données. On peut créer cet Internet-là. Donc, et c'est un Internet qui est parfaitement ouvert. C'est un Internet, vous avez toujours accès à l'intégralité des services, mais simplement, ces services devront répondre d'un droit qui, de surcroît, je dirais, sera contagieux. Alors, si vous créez une liberté, par exemple, si vous créez la propriété des données en France, eh bien, en combien de temps, hein, ça ne sera pas adopté par d'autres pays? Regardez le droit d'auteur, inventé par Beaumarchais dans le monde entier aujourd'hui.
Donc, c'est une réussite, bravo.
Ben oui, le droit d'auteur, c'est une réussite. Le droit d'auteur, c'est une réussite parce que ça protège la liberté intellectuelle. Bon, alors, évidemment, on peut débattre sur le sujet, je vois votre petit regard amusé, mais regardez quand même les aspects positifs de ces nouvelles libertés. Mais,
par exemple, prenons la propriété des données. Je vois bien l'idée. Ça, vous dites, voilà, vous l'avez expliqué tout à l'heure, bon, nous produisons des données, notamment des données personnelles, qui sont aspirées par des grands acteurs type Google. Créons, par exemple, une taxe aux données. Il y a eu un rapport, le rapport Colin et Colin, qui produisait aussi cette idée-là, quoi, d'une taxe sur les données. Bon, d'accord, mais simplement, imaginons que si pour aspirer ces données, par exemple, Google doivent nous rétribuer, disons, l'État qui est producteur de ces données, puisque ce serait à cette échelle-là, hein, que ça se répartirait cet argent, comme une taxe, quoi, bon, comme un impôt de sortie. Bon. Sauf qu'évidemment, eux, ils pourraient tout à fait faire payer d'autres données qu'on utilise tout le temps, des données américaines, je ne sais pas. Par exemple, une requête Google, ça pourrait tout à coup devenir une exportation de données de la part des États-Unis qui serait taxée. Donc, on paierait, par exemple, une requête Google. Alors, vous pourrez me dire, bon, on la paye déjà par la publicité, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il commence à y avoir, par exemple, si nous, on fait payer nos données, ben, pourquoi eux ne les feraient pas payer? Et dans ces cas-là, bon, c'est la fin d'un Internet, pour le coup, libre et ouvert.
Je ne crois pas que l'Internet soit libre et ouvert. Je pense que l'Internet aujourd'hui, c'est un extraordinaire pillage de données où vous avez un produit qui vous apparaît gratuit parce que c'est vous qui êtes le produit. Et que à partir du moment où les requêtes que vous faites sur le réseau peuvent servir contre vous, je vous donne le cas, vous achetez une poussette. Ça va donner une information comme quoi peut-être vous allez fonder une famille. Ça peut, si on fait ce qu'on appelle du shadow scoring, c'est-à-dire que si une société, pour vous voulez louer un appartement, va pouvoir se renseigner par ses officines de shadow scoring, de savoir quel est l'environnement de cette personne. Ah, il va avoir un enfant, donc mais je ne veux pas d'enfant dans mon immeuble. Il y a une compétition pour avoir un dossier dans une entreprise, il y a plusieurs personnes qui peuvent l'avoir. On demande au DRH... Vers qui nous vous orientez? Shadow scoring. Non, cette personne-là va avoir un enfant. Il ne faut pas lui confier ce dossier. Donc, vous êtes dans des logiques où, effectivement, ce que vous appelez l'Internet libre et ouvert, c'est un peu comme le crack. On disait, c'est formidable, c'est gratuit au début. Bon, on paye plus tard. On paye très cher plus tard. Et on paye trop cher plus tard. Donc, on peut avoir exactement les mêmes services. Et c'est vrai qu'il y a un rapport de force. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut dire, voilà, vous ne pouvez pas, en fait, utiliser ces données sans qu'il y ait l'exercice d'une liberté, d'un droit de regard et d'une contrepartie. Oui, ça me semble clair. Mais quand vous êtes un quart du marché mondial, vous avez une possibilité de vous exprimer. Et qui l'a fait? Ça aurait dû être la France. Mais c'est plutôt l'Allemagne qui l'a fait au départ en disant, nous allons crypter. Première chose, nous allons localiser les serveurs. Le Brésil a eu la même démarche. Et aujourd'hui, on voit des nations qui, en fait, partent sur ces sujets. Donc, on va y aller, nous aussi, par la force des choses. Et donc, ce que nous avons à craindre, c'est effectivement un Internet qui se balkanise, certains l'ont dit. On a aussi la possibilité d'avoir un Internet qui se démocratise parce que justement, on se réapproprie notre liberté.
Oui,
mais il y a un risque.
Mais Pierre Bélanger, moi je me pose toujours la question de savoir si l'État, par exemple, est le meilleur garant de ce type de liberté. Parce que, par exemple, regardez, on a appris récemment que Orange, dans votre livre, vous faites toute une série de paragraphes sur Orange qui pourrait être le pivot, justement, de ce réseau logiciel national dont vous parlez. Bon. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend qu'il y a des accords, alors accords légaux ou pas, entre Orange et la DGSE, qui font que les données qui passent par Orange ou des usagers d'Orange, etc., glissent allègrement vers la DGSE. Bon. Pourquoi donc il faudrait faire confiance à ce type d'opérateur et de rapport entre l'État et un opérateur ? Enfin, du coup, voilà, moi, j'ai pas plus confiance en Orange qu'en Google, pour le dire d'une façon un peu vulgaire, Pierre Bélanger.
Mais vous avez raison. Il n'y a pas de raison de faire confiance à quiconque. Simplement, vous avez des systèmes qui sont des systèmes démocratiques. Vous avez, par exemple, justement, vous dites, il y a une publication dans le monde disant, ben voilà, il y a ces... Mais vous avez le droit de vote, mais vous avez un député, vous avez des élus, il y a un gouvernement, la loi peut changer. La loi peut interdire quelque chose, il peut y avoir une commission d'enquête parlementaire, il y a des voix démocratiques qui peuvent se lever, on peut décider de notre destin sur ce sujet-là et sur un réseau qu'on contrôle. Maintenant, s'il y a des révélations de la NSA qui capturent toutes les données ici, eh bien, nous n'avons pas droit et pas de voix au chapitre. Donc, il ne s'agit pas... Moi, je ne parle pas de l'Internet bisounours, il ne s'agit pas d'avoir confiance ou quoi que ce soit. On est dans un système de défiance multiple et de rapport de force. Le peuple a besoin d'avoir un rapport de force avec ses institutions. Et c'est ça, la démocratie. Et cette démocratie, c'est le fait qu'on puisse contrôler ce qui se passe. Et ici, sur ce territoire, nous avons la possibilité de contrôler ce qui se passe. D'où le principe de la souveraineté numérique.
Mais ce que je me demande, c'est aussi s'il n'y aurait pas moyen de récupérer une forme de souveraineté qui ne soit pas liée au territoire. Par exemple, une souveraineté d'ordre communautaire. Puisqu'il y a quelque chose qui subsume, disons, le territoire, pas simplement, évidemment, je ne suis pas non plus naïf, c'est-à-dire qu'il y a les enjeux nationaux à l'intérieur de l'Internet n'ont jamais cessé d'exister, depuis le début. Hein.Ils sont très importants. Mais il y a quand même quelque chose qui subsume, c'est-à-dire qu'il y a aussi des communautés qui existent et qui sont, disons, transnationales ou, je ne sais pas, métanationales. Et pourquoi ce ne serait pas là qu'il pourrait y avoir récupération d'une souveraineté à travers des réseaux, hein, à travers le réseau, disons, utiliser le réseau pour créer une souveraineté, mais qui ne soit pas liée à un territoire, mais qui soit une souveraineté d'usager, voyez.
Je le comprends, et pourquoi pas. Il est très possible, et on le voit déjà, qu'il y a des réticulations, des réseaux qui se créent. C'est pour ça que je parle de, comme on parle souvent des économies émergentes, je parle des pays émergents, qui, en fait, passent sous le système et s'immergent et créent leur propre souveraineté. Tout ça est possible et tout ça existera. Mais... vous parlez beaucoup de l'Internet et parlez du web, par exemple. Bon, ce web-là, il est en train de disparaître. Aujourd'hui, la montée des usages, elle est sur les terminaux mobiles. Sur les terminaux mobiles, vous dépendez du système d'exploitation de votre terminal. Vous dépendez donc de quelqu'un qui, à la fois, fait le support de fonctionnement de votre machine, le logiciel qui pilote votre machine et qui fournit simultanément des services. Vous avez WhatsApp, qui a été racheté 19 milliards de dollars par Facebook. Bon, donc 4 milliards de dollars en cash, ce qui est beaucoup d'argent. Bon, imaginez que cette application qui se trouve sur Google Play et donc sur l'App Store de Google et sur l'App Store d'Apple, soudain sorte de ces deux App Stores. Ouais. Elle ne vaut plus rien. Bon, donc la souveraineté, ce n'est plus aujourd'hui comme sur Internet. On pouvait dire, bah voilà, finalement, il n'y a pas de système d'exploitation d'Internet. Il n'y en avait pas. Il y avait un protocole. Là, on est dans une logique où on est sous le contrôle des systèmes d'exploitation des terminaux. Il y a un auteur qui s'appelle Zittrain qui a écrit « Le futur de l'Internet et comment y échapper ?» et qui montre, dans ce livre absolument passionnant, comment, en effet, on passe d'une logique d'un Internet ouvert et libre, je dirais un Internet très sympathique d'apparence, à un Internet qui va être fermé, en fait. Et c'est un Internet fermé, un Internet d'écosystème. Et la seule force que nous ayons, nous, en tant que citoyens, c'est de s'appuyer sur la démocratie, sur l'État. Et c'est très paradoxal.
Parce que
moi, je me suis servi de l'Internet pour déstabiliser l'État.
Et justement, j'allais en venir évidemment
donc,
à cette question.
En
vous lisant Pierre Bélanger, à chaque fois, je me suis dit, mais lui, quand même,
oui.
qui a été dans les radios libres, c'est-à-dire qui a imaginé effectivement Internet pour déstabiliser l'État, ou au moins intellectuellement, etc. Tout à coup, il revient à défendre un souverainisme numérique. Certes, ce n'est pas un souverainisme total, vous vous êtes distingué de Charles Pasqua, vous avez bien fait au début.
Non, mais
je veux dire, c'est que on se dit, mais quel tournant intellectuel bizarroïde.
Eh bien, en fait, c'est le pur pragmatisme. C'est-à-dire que quand vous défendez la liberté, vous dites à un moment donné, vous avez un pays dans lequel j'ai vécu, qui était une sorte d'aquarium qui était fermé. À un moment donné, il faut péter la vitre. Bon, et Internet a servi à péter la vitre des conservatismes, des prébendes, des positions privilégiées et des rentes.
Et tout ça pour remettre une vitre.
Et ça a été fantastique. Et ça a été, je dirais, une respiration collective magique. Cette respiration collective, elle est en danger, puisque les réseaux logiciels, ces réseaux de services, sont en train de refermer le système. Mmh. Et comme ils referment le système, nous avons besoin, à nouveau, de casser la vitre des aquariums. Et casser la vitre des aquariums, eh bien, on va s'appuyer sur les ressources publiques et sur la démocratie et sur la souveraineté pour le faire.
Oui, mais c'est donc, là où je me disais, j'aurais attendu de vous un truc plus communaliste, plus utopique, plus... voilà, c'est ça qui m'étonne.
L'idée, c'est toujours utopique d'ailleurs de faire appel au pouvoir public. Hein, vous
êtes peut-être, mais c'est une forme utopique qui est différente.
Bon, mais l'idée fondamentale, c'est toujours la liberté. C'est l'idée centrale. Vous avez besoin de l'Internet contre l'État, pour la liberté, vous utilisez Internet. Vous avez besoin de l'État contre Internet, vous utilisez l'État. En fait, le principe, c'est défendre les utilisateurs, leur liberté et finalement notre vie à tous.
Est-ce que, Pierre Bellanger, quand vous dites, parce que j'imagine que vous avez des contacts, vous êtes consulté par les hommes et femmes politiques, ou même par des institutions publiques, bon,
ah oui, je les connaissais bien.
Qu'est-ce que, quand vous leur racontez ça, c'est quoi les réponses, c'est quoi le degré d'attention, de sérieux qui est accordé à ce que vous racontez, Pierre Bellanger?
Au départ, c'était très poli. C'était amusant. Et je dirais, je faisais partie du divertissement de fin de journée. Parce que les gens étaient un peu fatigués, ils avaient vu plein de problèmes graves pendant la journée, puis il y avait le gars qui venait parler d'Internet, et puis il était plutôt marrant, puis il faisait rire un peu. Bon. Et au fil du temps, en fait, là je parle de je dirais, la première partie de 2005. Et puis au fil du temps, c'est devenu quelque chose de sérieux, et aujourd'hui c'est quelque chose de grave. Au sens que vous avez par exemple la Redoute. Vous avez un plan social, c'est Internet. Aulnay-sous-Bois, c'est Internet, parce que c'est une robotisation qui n'est pas encore faite. En fait, tout est Internet, et donc ça devient l'emploi, et donc c'est au cœur de la préoccupation des élus.
Pierre Bellanger, Thibault, pour son complément d'enquête.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Je ne sais pas que ce soit très important.
Thibault.
Oui, Pierre Bellanger, je voulais vous demander, page 65, vous parlez de votre groupe, du groupe Skyrock, et en le présentant comme une triade média mobile monnaie susceptible de résister aux réseaux logiciels. Je voudrais comprendre en quoi cette triade-là se distingue d'un réseau logiciel et en quoi elle peut lutter contre...
Alors, il y a une expression dans le livre, c'est la miettocratie. La miettocratie, c'est de dire, voilà, quand il nous reste que des miettes, on essaye d'en avoir une grosse. Donc, le principe, c'est que le réseau logiciel, lui, va se retrouver grosso modo avec une part de 50% du marché publicitaire en contrôlant tout de l'utilisateur aux publicités qu'il voit jusqu'au tiroir caisse. Nous, ce que nous avons développé avec le groupe Skyrock, donc à notre échelle, donc de miettocrate, hein, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une grosse miette. Bon, c'est la possibilité, par du cashback qu'on fait par une application mobile sur Skyrock Cashback, d'avoir une traçabilité qui va, en fait, de la promotion que nous faisons à la radio, de la conversation qui a lieu sur le réseau, jusqu'à la transaction qui a lieu sur le mobile. Et donc, nous avons créé à notre échelle modeste, pas si modeste que ça, mais enfin modeste eu égard des acteurs américains, on a créé cette chaîne qui permet de suivre les actes d'achat et qui donc valorise nos actifs.
Et en quoi on est plus libre avec ça? Je veux dire, on est quand même tracé, on nous vend quand même de la publicité.
Bien sûr, moi je suis très favorable à la publicité. Je ne suis pas favorable à ce que ce système nous domine. Mais je pense que quand on peut l'utiliser, il est absolument génial.
Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a une contradiction entre liberté d'expression et publicité, justement, c'est-à-dire...
Absolument pas.
On a quand même d'un côté chose qui cherche à modeler les comportements, à les influencer, et de l'autre, dans la liberté d'expression, une sorte de revendication d'autonomie.
Chaque personne aujourd'hui, qu'est-ce qu'a fait Internet? Internet a transformé les marques en personnes et les personnes en marques. Chaque personne qui s'exprime est une marque publicitaire qui va vendre de la reconnaissance, de l'amour, de la paix.
C'est pas contre ça que vous luttez?
Absolument pas. Ah. Moi, je suis favorable à la publicité. Je pense que le profit, c'est la liberté. Je pense que plus on gagne d'argent, plus on est libre. Donc, je suis, farouchement convaincu de l'importance économique de ce que nous menons. Et mon idée, et d'ailleurs, j'avais eu des débats à la fin des années 70 qui étaient rudes à la Fédération nationale des radios libres, puisque j'étais intervenu en disant la révolution se fera quand elle sera rentable. Et j'avais bien expliqué que l'entreprise et l'unité économique étaient le cœur du mouvement révolutionnaire qu'on devait accomplir. Donc je suis moi au cœur de ça et je suis très cohérent avec ça.
Miétocratie, SOS, vous aimez beaucoup les néologismes, il y en a beaucoup dans votre livre. Ça vient...
J'aime bien les mots, ouais.
Ouais, d'accord. Et vous avez parlé de l'exemple du Brésil, de la constitution pour l'Internet du Brésil. Vous savez que récemment, la clause justement prévoyant la localisation des serveurs au Brésil a été retirée du projet de loi, précisément parce que les entreprises brésiliennes elles-mêmes s'y opposaient.
Je pense que dès lors qu'il y a des intérêts, il y a un débat, mais je pense qu'au final, les utilisateurs gagneront.
Merci beaucoup Pierre Bélanger d'être passé par Place de la Toile pour nous expliquer votre conception de la souveraineté numérique. Je rappelle que votre livre, La souveraineté numérique, est paru aux éditions Stock. Vos références et celles de votre ouvrage sont sur la page de Place de la Toile, une page où vous pouvez aussi télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours. C'était Place de la Toile, Thibaut Henton. Xavier Delaporte à la technique, c'était Kevin Lebars, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h sur France Culture. Dans quelques instants, vous retrouverez Elisabeth Tchungi pour Surécoute. Bonne soirée, bonne semaine.